le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission du magazine des Nations Unies de ce dimanche, dont voici les titres. J'appelle le Conseil de sécurité à condamner les crimes commis en République démocratique du Congo avec la plus grande fermeté et à soutenir la décision du gouvernement congolais de les renvoyer devant la Cour pénale internationale CPI. Déclaration de la représentante spéciale Bintou Keïta à New York lors de la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la RDC. C'était le vendredi 9 décembre dernier. Les détails de l'adresse de la chef de la MONUSCO dans cette édition. Comment rétablir la confiance brisée entre la MONUSCO et la population à la suite des frustrations et des tensions au sein des habitants de la région? La question a fait l'objet d'un dialogue entre le leadership local de la mission onusienne en RDC et les acteurs sociaux de Munigi en territoire de Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Un dialogue organisé sous les auspices des autorités provinciales. Nous irons à Goma avec notre correspondante Denise Lukeso. Enfin, nous serons également à Uvira au Sud Kivu dans le volet développement. Ici, les acteurs sociaux locaux ont opté pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles des moyens et au plateau de la plaine de la Ruzizi comme priorité dans le projet pilote de réinsertion et relèvement communautaire des ex-combattants démobilisés. C'était au cours d'une réunion stratégique et d'information conjointe OIM, Organisation internationale pour les migrations et le programme PDD-RCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce sont là les principaux points d'actualité du magazine des Nations Unies de cette semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et bienvenue à cette édition. La chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a été devant le Conseil de sécurité le vendredi 9 décembre dernier. Dans son message, la représentante spéciale a appelé l'exécutif de l'ONU à condamner les crimes commis en RDC avec la plus grande fermeté et à soutenir la décision du gouvernement congolais de les renvoyer devant la Cour pénale internationale CPI pour la poursuite de leurs auteurs. D'autres détails de la déclaration de Bintou Keïta avec Pelé Kipelamondo.
Les atrocités et autres crimes qui auraient été commis par l'M23 et d'autres groupes armés sont extrêmement préoccupants, affirme Bintou Keïta. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC explique que plus récemment, une équipe d'enquête préliminaire des Nations Unies a pu confirmer qu'entre le 28 et le 30 novembre à Kishishe et Bambo, territoire de Rutshuru au Nord Kivu, au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants ont été tués par des combattants du M23. Au cours de la même période, poursuit-elle, les combattants du M23 ont violé au moins 22 femmes, dont une a été tuée après les viols, et 5 filles. Les 5 filles sont actuellement détenues en captivité par des combattants du M23 et seraient victimes d'esclavage sexuel. Pour Bintou Keïta, ni ces crimes, ni d'autres crimes graves ne doivent pouvoir se poursuivre et rester impunis. Elle renseigne également que la MONUSCO a continué de fournir un appui opérationnel, logistique et tactique au FRDC et à la PNC dans leurs efforts pour affronter les groupes armés dans l'est du Congo et notamment contre le M23. Des patrouilles robustes, y compris conjointement avec les FRDC et la PNC, ont été menées dans et autour de Goma pour assurer la protection des civils et dissuader le M23 d'avancer davantage vers la ville. En outre, la MONUSCO a mis en place des réseaux d'alerte communautaire supplémentaires dans les zones vulnérables aux attaques du M23, dans les territoires des Rutshuru et des Masisi.
Direction Goma au Nord Kivu. Comment restaurer la confiance et la relation entre la MONUSCO et la population? Cette question a fait l'objet d'un dialogue social entre la mission onusienne, la population déplacée et les autorités provinciales. C'était mercredi dernier dans la chefferie de Munigi. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. L'idée était de rétablir la confiance brisée et constatée depuis quelque temps entre les deux parties à la suite des frustrations et tensions observées au sein de la population. Une soixantaine de personnes ont pris part à ce dialogue. Il s'agit notamment de représentants des déplacés, ceux de la société civile, des chefs administratifs ainsi que des membres du Conseil provincial de sécurité. La chef de bureau de la MONUSCO Goma a également participé à ce dialogue organisé sous les auspices du gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima. Denise Lukeso, reportage.
La relation doit être rétablie entre la population et la MONUSCO, surtout en cette période de crise. C'est le souhait et la demande de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Mbabazé et son président.
La relation va être rétablie par l'engagement, encore une fois, de la MONUSCO pour protéger les populations qui sont en difficulté, qui sont en danger. Et nous le croyons, nous l'espérons, parce que au moins ces derniers temps, on a vu quand même la MONUSCO à l'œuvre à Rutshuru pour évacuer certaines personnes qui étaient en difficulté.
En réaction, la chef de bureau de la MONUSCO, Goma, dit avoir pris note de leurs préoccupations et demandes. Madame Bouril a promis de prendre action.
La communication, c'est aussi la rupture de confiance que vous avez vis-à-vis de nous. Je m'engage à restaurer la communication, mais aussi à restaurer la confiance que nous avons perdue. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement, avec le président, pour vous apporter ce que vous demandez. Comme le gouverneur a dit, ce n'est pas des sacs de riz que vous voulez, c'est la paix. Et nous nous y attellerons ensemble. Ne vous laissez pas duper par les informations qui circulent pour nous diviser.
Plusieurs autres préoccupations de sécurité, les désirs, les besoins et les demandes ont été soulevées par les déplacés afin que les autorités congolaises et son partenaire, la MONUSCO, y apportent des solutions idoines. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Volet développement, un atelier de validation du document portant sur la politique nationale de l'énergie a été organisé à Kinshasa du 8 au 9 décembre 2022. C'est une initiative du ministère des Ressources hydrauliques et électricité avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet atelier a réuni des experts de ce ministère, des représentants de la société civile, de CAFI et de Fonared. Jeff Opela.
Pour une politique énergétique de gestion durable du bois énergie et des substitutions partielles à ces derniers, les ministres ayant en charge les ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé, a ouvert le porte de cet atelier.
Je voudrais, en cette circonstance solennelle, vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier pour votre disponibilité et votre engagement personnel dans les réformes politiques, y compris celle de l'énergie tant souhaitée par le gouvernement.
Le programme des Nations Unies pour le développement, ici représenté par Madame Rokia Kiand, l'accès de l'énergie soutient le service essentiel de base, raison de leur appui dans cet atelier.
C'est dans cette perspective que le programme des Nations Unies pour le développement travaille avec le gouvernement pour élaborer et mettre en place les politiques publiques et à créer l'environnement favorable pour attirer les capitaux privés.
Bruno Iguel, représentant des CAFI, pour sa part, rassure l'appui de sa structure pour la mise en œuvre de son partenariat sur les priorités partagées.
Le gouvernement de la RDC peut continuer à compter sur CAFI pour appuyer la mise en œuvre concrète dans le cadre de la nouvelle phase de son partenariat au travers d'un appui conséquent et transformationnel sur nos priorités partagées. Et je vous souhaite, dans le cadre du présent atelier, des échanges productifs et enrichissants.
Pour le Fonared, le coordonnateur, M. Baron Samputu-Elima, se félicite et attend à bras ouverts la validation du document.
Clôture jeudi 8 décembre dernier de l'exposition du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le thème international autour de ces 16 jours était « Activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Plusieurs organisations féminines ont exposé divers articles dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Lagombe. C'était le cas de l'organisation Femmes solidaires pour la paix et le développement, FSPD. Selon sa coordinatrice, Desiderata Fura Maliro, l'objectif de la participation de son organisation était d'expliquer à d'autres femmes ce qu'il faut faire pour leur autonomisation et pour éviter les violences dans leurs milieux respectifs. Écoutez à ce sujet Cécile Balégaminé, ingénieure agronome, membre de FSPD, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
À notre jeune génération des dames, de ne pas être complexée. Ce n'est pas que parce que tu as fini à l'Enekin, tu as fait les droits, que tu ne peux pas faire les champs, par exemple. Tu peux déjà commencer à faire des petites choses, des petites activités qui te permettent d'être financièrement stable. Vous allez au champ, vous mettez les légumes. Après quelques jours, vous pouvez vendre et ça vous permet aussi d'avoir quelque chose. Au lieu d'être toujours derrière des gens, une femme doit être debout. Tu ne peux pas être là à demander tous les jours. Les femmes doivent connaître leurs droits et doivent savoir comment se protéger des violences, comment réagir face à la violence. Comme je suis ingénieure agronome, je m'occupe de la production alimentaire. Nous avons exposé des légumes, des carottes, des épices que nous produisons à Mekao. Alors c'est un message à donner aux femmes, parce que quand la femme est autonome financièrement, elle n'a pas le temps d'être marginalisée. Je fais aussi la production des objets en perles, des perlages. On fait des petits sacs, nous faisons aussi des sous-plats, des sous-verres ou sous-tasses, mais aussi des petits objets de décoration pour la maison. Nous produisons aussi des jus de gingembre, nous produisons aussi du lait caillé. C'est pour être financièrement stable, économiquement stable, pour ne pas être tout le temps attentiste face aux hommes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons encore dans cette édition sur l'entretien du vice-gouverneur du Kasaï central accordé à Radio Okapi en marge de la deuxième réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, PBF, rencontre qui s'est tenue du 2 au 6 décembre à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Dans son message au cours des travaux, Martin Makita avait lancé une alerte concernant le feu qui couvait encore dans cette contrée dans la suite de la crise de Kamouna-Sampou. Le vice-gouverneur Makita a répondu aux questions d'Honoré Missinga-Kalala.
Monsieur le vice-gouverneur du Kasaï central, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, comment est née la ministre Kamouna-Sampou d'une manière globale?
Pour votre histoire, il faut retenir que la ministre Kamouna-Sampou est née d'un conflit de pouvoir coutumier. Un chef, un grand chef est mort, Kamouna-Sampou. Son fils est venu pour récupérer le pouvoir, mais il y a eu une résistance de la part du gouverneur qui était là à l'époque et soutenu par le pouvoir central. Au vu de cela, le chef s'est rebellé, il a commencé à s'organiser et lorsque le pouvoir central a senti qu'il était en train de s'organiser, on a envoyé les militaires qui l'ont tué. Lorsqu'on l'a tué, c'est que la population s'est rebellée et pour eux, ne pouvait pas exister devant eux, c'est le pouvoir en place. Tout le monde de l'État qu'on voyait, on l'appelait Mwenekabini, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas l'avancement du pays. Il fallait le tuer, il fallait le décapiter. Incendier les bureaux de la police, tuer les policiers, un militaire qui se présente, on le tue. C'est ça l'historique.
Donc le point de départ, c'est l'assassinat du chef coutumier.
L'assassinat du chef coutumier et le refus de l'installer.
Tout ça, c'est le passé. Votre province est parmi les trois couvertes par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, dont l'objectif est de mettre en œuvre des projets d'intérêt communautaire en vue de contribuer à la cohabitation pacifique entre des peuples qui étaient ou qui sont en conflit. Qu'est-ce qui est déjà fait dans votre province par rapport à ce programme des Nations Unies?
C'est comme je l'ai dit. Je n'ai pas mâché les mots. On ne mange pas derrière la cuillère. La province du Kasaï central est l'épicentre de conflits. La province du Kasaï central a connu beaucoup de morts. Ce qui est fait, c'est fait comme une goutte d'eau dans l'eau. Le fonds PBF est venu, bien sûr, pour sensibiliser la population, mais dans le ciblage, compte tenu des moyens vraiment limités qu'ils avaient reçus, là où on avait ciblé, il y a la paix, parce que maintenant, avec les sensibilisations, l'animation, nous pouvons circuler à travers la province, mais il y a toujours les poches de tension, il y a toujours des coins où les gens vivent encore à côté de tuer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
Notamment la gestion du pouvoir coutumier, vous avez dit que beaucoup de chefs légitimes qui avaient été dépossédés de leur pouvoir n'ont pas encore été réhabilités. Comment? Pourquoi?
Oui, vous avez suivi au mois de novembre ici. Entre le 20 et le 21, il y a eu 648 maisons qui étaient incendiées à Ntenda. Pourquoi? Parce que le chef légitime qui vit à Kinshasa était rentré pour récupérer son pouvoir entre les mains de l'intérimaire. Celui-ci, il s'est créé ses acolytes et les acolytes de l'autre camp, ils sont affrontés et il y a eu des dégâts matériels énormes. Et il y en a quoi comme ça dans les territoires de Limbelenge, à Kazumba, à Ndemba et à Luisa. Et partout là, le fonds ne les a pas encore soutenus. C'est ce qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y a les chefs qui étaient légitimement installé, mais quand la ministre est venue, on a décapité le chef, on a mis quelqu'un d'autre au pouvoir, et jusque-là, le pouvoir ne s'est pas encore stabilisé. C'est pourquoi, au niveau de la province, nous avons créé deux commissions. La commission justice, vérité et réconciliation, pour que nous puissions réconcilier les gens, que les vrais chefs, à travers une deuxième commission, récupèrent le pouvoir, et nous avons cherché à réglementer l'obtention de ce pouvoir-là, et comment on peut cohabiter pacifiquement dans les familles régnantes.
L'autre problème, monsieur le vice-gouverneur, c'est la circulation continue des armes. D'où viennent ces armes?
Non, les armes ne circulent pas. Mais néanmoins, nous avons noté que les armes sont cachées. Parce que chez nous, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre entre les militaires et les miliciens. il faut que nous puissions organiser une sensibilisation pour que les gens qui continuent à détenir encore les armes, que nous puissions les récupérer. Non seulement les armes de fabrication locale, mais il y a eu aussi les armes délaissées par les militaires passés par là, qu'on doit récupérer. Il faut une politique pour que nous puissions récupérer. Il faut des fonds et des moyens pour que nous puissions récupérer ces armes-là, pour que la paix règne et une paix totale.
La crise camerounaise a pourra également contribuer à la baisse de la production agricole, vous l'avez dit. Alors comment?
Vous savez, là où il y a la guerre, quand il y a eu la guerre, les gens sont déplacés. Même quand ils sont rentrés, ils ont peur. Ils hésitent de se trouver seuls dans les champs. Et de temps en temps, nous assistons aux problèmes de violence. On viole les femmes, on kidnappe les autres. C'est pourquoi les gens ne cultivent pas comme avant. Et au vu de cette crise alimentaire, il y a PAM, il y a CERES, il y a d'autres organisations, les Nations Unies, qui sont de distribuer les vivres. Mais surtout, les cash. Et les cash ne résolvent pas le problème. S'il faut un appui pour la province du Gaza central, il faut un appui sur le plan agricole. On donne les matériels aratoires, on donne un appui pour que les gens puissent bien travailler.
Alors, par rapport à tous ces défis, monsieur le vice-gouverneur, quel plaidoyer vous faites au PIBF, aux Nations Unies et même au gouvernement?
L'appel que nous lançons à cette occasion, comme on dit, l'occasion faisant le larron, on demande non seulement au PIBF, nous demandons aux partenaires de comprendre que le Conseil central, aujourd'hui, nous traversons une crise, nous avons des séquelles qui ne sont pas encore terminées. S'il y a moyen d'intervenir, qu'ils contactent les autorités locales qui sont en place aujourd'hui pour que ensemble nous puissions voir comment on peut résoudre cette crise. Parce qu'il y a toujours les femmes qui sont violées, il y a toujours des problèmes de pauvreté vraiment aigus et les gens ne savent pas se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi il faut que notre plaidoyer soit vraiment suivi et entendu pour que tous les partenaires comprennent que bien que nous vivons l'accalmie, mais c'est une accalmie précaire.
Pas seulement les partenaires, mais il y a aussi votre propre gouvernement.
Le gouvernement central, quand nous avons parlé, on a parlé devant le ministre d'État, le ministre du Plan, qui travaille ensemble avec les partenaires. Le gouvernement central est en train de nous appuyer. Le gouvernement provincial ne dort pas. Nous avons inséré tout ce dont je vous ai parlé ici dans le programme d'action, dans le budget 2023. Alors, il faut aussi un appui du gouvernement central pour que les routes soient entretenues, les ponts soient réhabilités et que sur le plan agricole, que les gens puissent aussi être soutenus pour que le développement se fasse sentir au réseau central qui est une province purement administrative.
Monsieur le vice-gouverneur du Kassa Central, merci.
Je vous remercie.
Nos nouvelles en plus bref, d'abord avec le volet sécuritaire, au moins 131 civils tués par le M23 à Kichiché, 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants. Bilan sorti d'une enquête préliminaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et de la MONUSCO. Ce bilan fait suite aux actes de représailles contre les populations civiles perpétrés le 29 et 30 novembre à Kichiché et Bambou, deux villages du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Cette enquête préliminaire de l'ONU parle également de 8 personnes blessées au cours des mêmes massacres. Elle mentionne au moins 22 femmes et 5 filles violées, ainsi que 60 autres personnes enlevées. Restons dans la même région de l'Est de la République démocratique du Congo, direction Uvira au Sud-Kivu à présent, où la Commission nationale pour les réfugiés a facilité le transfert de plus de 300 demandeurs d'asile burundais ayant récemment obtenu le statut de réfugié du centre de transit du HCR à Kavimvira au camp des réfugiés de Mulungwe, plus de 100 km au sud en territoire de Fizi. La plupart de ces nouveaux réfugiés burundais avaient fui les persécutions dans leur pays avant de traverser la rivière pour se retrouver dans la plaine de la Ruzizi. Selon le chef d'antenne de la CNR, Uvira, tous les services congolais ainsi que les acteurs de la société civile locale ont été impliqués dans le processus d'enregistrement, d'identification biométrique ainsi que de transfert de ces demandeurs d'asile burundais vers Mulungwe. Enfin, nous sommes aujourd'hui dimanche 18 décembre. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants proclamée par l'ONU le 4 décembre 2000 pour commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Selon le rapport sur l'état de la migration dans le monde 2022, le nombre estimé des migrants internationaux a augmenté au cours de 5 dernières décennies. Actuellement, environ 281 millions de personnes sont des migrants internationaux vivant dans un pays autre que leur pays de naissance.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce jour, c'est le chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR Ouvira, Dominique Keleko. La CNR qui a facilité le transfert de plus de 300 demandeurs d'asile burundais ayant récemment obtenu le statut de réfugié. Ces personnes étaient en majorité des femmes et des enfants. Elles avaient quitté mercredi 7 décembre 2022 le centre de transit du HCR à Kavimvira pour être acheminées vers le camp de réfugiés burundais de Mulongwe à plus de 100 km au sud en territoire de Fizi. Suivez l'entretien du chef d'antenne CNR Ouvira avec Fiston Goma.
Dominique Keleko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, antenne d'Ouvira. Vous procédez aujourd'hui au transfert des réfugiés burundais vers le camp de Mulongwe, en territoire de Fizi. Combien sont-ils et d'où viennent-ils?
Merci beaucoup pour cette question capitale par rapport à la protection des réfugiés. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, accueille de plus en plus de demandeurs d'asile en provenance du Burundi. Actuellement, la commission d'éligibilité a reconnu certains des demandeurs d'asile, les a octroyé le statut de réfugié. Et dans le processus, c'est que une fois le statut de réfugié est acquis, ces réfugiés doivent aller vivre dans les camps. Parce qu'ici, nous sommes dans un centre de transit où il ne peut pas passer beaucoup de temps. Ou ici, à Kavimvira. Pour le convoi d'aujourd'hui, nous allons amener 97 ménages de 305 personnes qui vont se rendre dans les camps de Mulongwe, dans les territoires de Fizi.
Quand vous parlez du comité d'éligibilité, est-ce que le service congolais ont été associés à ces comités ici pour donner le statut de réfugié à ces personnes?
Oui, la commission d'éligibilité, comme la loi portant statut de réfugié le précise, c'est une plateforme qui réunit plusieurs ministères et plusieurs services, notamment la DGM, l'ANR, la police, l'armée et d'autres ministères aussi, parce que nous relevons du ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères, de la Défense. Vraiment, c'est une plateforme. C'est là où on prend la décision pour octroyer le statut de réfugié. Et donc, ces gens sont déjà reconnus comme réfugiés. Et comme ils sont reconnus comme réfugiés, ils doivent aller vivre dans les camps des réfugiés qui a été conçu pour les accueillir. Ils sont reconnus par la République démocratique du Congo à travers la Commission nationale pour les réfugiés, à travers la commission d'éligibilité, parce qu'ils ont fait des demandes d'asile. Alors, il est temps de traiter leur dossier, ainsi de suite. Et voilà, la décision est tombée. La commission d'éligibilité, qui est présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, a octroyé le statut des réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes au niveau provincial, nous ne pouvons qu'exécuter, c'est-à-dire prendre ces réfugiés qui sont déjà reconnus comme tels et les amener dans les camps. C'est là où ils vont vivre, passer tout le reste des temps de leur réfuge.
Qu'est-ce qui expliquerait cette demande d'asile de ces personnes sur le sol congolais, alors qu'au même moment, il y a des réfugiés burundais qui se portent garants volontairement, qui retournent chez eux?
Bon, cela peut sembler comme un paradoxe, mais ce sont des réalités que nous vivons. Je ne peux pas m'étaler pour vous dire clairement qu'est-ce qui les a poussés, mais au regard de la définition de réfugiés, nous avons des critères qui sont bien définis dans la loi et dans les conventions qui...
Qu'est-ce qui motive l'air réfugié?
Dans tout ce qui justifie le réfugié, il y a la notion de persécution. C'est là où nous travaillons, même avec les autres services étatiques, pour...
La persécution dans leur pays?
Bon, l'idée générale, dans les critères, il y a cette notion de la persécution qui existe, qui fait que la personne est obligée de quitter son pays d'origine pour trouver protection dans un autre pays. Donc, à l'occurrence, donc ce qui arrive. Et croyez-moi, c'est un processus. Ce n'est pas automatique quand quelqu'un arrive, bien qu'il puisse s'expliquer. Nous passons par ce que nous appelons le screening. Et même au niveau local, nous faisons le screening avec les autres services étatiques. Lorsque le comité qui forme ce screening, ils vont être convaincus que la personne s'est exprimée, a donné ses raisons qui sont conformes à la loi, à ce moment, on peut les retenir comme demandeurs d'asile. Et là, nous allons passer par la deuxième phase, c'est l'enregistrement biométrique. Et puis nous allons transmettre les listes à qui des droits à la commission d'éligibilité pour décider.
Est-ce que ce mouvement de transfert vers le camp des réfugiés de Mulongwe interrompt en même temps le rapatriement volontaire des autres réfugiés ici?
Non, non, ça n'interrompt pas. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer aussi des convois de rapatriement. Surtout ceux qui ont passé plusieurs années dans les camps, à Lusenda et à Mulongwe. Il n'y a pas longtemps, nous avons effectué aussi les rapatriements. Donc, c'est volontaire. Ceux qui veulent partir, on ne peut pas les empêcher de partir. Et ceux qui arrivent présentent les raisons pour lesquelles ils ont poussé à quitter leur pays. Nous analysons la situation et nous transmettons les listes pour la décision finale, c'est-à-dire l'octroi des statuts de réfugiés. Donc, c'est un peu ça... du point de vue de la population, ils ne peuvent pas comprendre qu'au même moment, il y a des réfugiés qui rentrent et au même moment, nous recevons les demandeurs d'asile. Mais ce sont des réalités. Et actuellement, par exemple, nous avons plus de 1000 demandeurs d'asile à Sangué et actuellement, les collègues sont en train de procéder à l'enrichissement biométrique.
Merci beaucoup, monsieur Dominique.
Merci à vous également.
Restons encore à Uvira. Les acteurs locaux étatiques et non étatiques de ce territoire ont opté la semaine dernière pour la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles des moyens et hauts plateaux comme priorité dans le projet pilote de réinsertion et relèvement communautaire des ex-combattants démobilisés. Une réunion stratégique et d'information sur ce projet a été organisée par l'Organisation internationale de migration OIM et le PDDRCS, Bureau provincial du Sud-Kivu. Quel est l'impact socio-économique et sécuritaire de ce projet? C'est un dossier de Fiston Goma.
Ce projet pilote vient en appui au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il consistera à désenclaver le milieu des moyens et hauts plateaux de la chefferie de Bafuliru et la chefferie de Bavira. D'après les chefs d'antenne du PDDRCS Uvira Fizi Tombwe, l'enclavement est l'un des facteurs importants qui favorisent l'insécurité dans la région des hauts plateaux. Samuel Rachid Matabishi.
Dans l'axe Runingu vers Kachi, Château, Kaololo, il y a une route, mais qui est dans un délabrement avancé, qui ne peut pas permettre la circulation libre des personnes, même des véhicules. Alors, on veut réhabiliter cette route. C'est une route d'intérêt communautaire. Deuxième choix de route à entretenir, c'est route Kirungu vers Bijombo, centre. C'est une route à tracer.
Plus de 2000 personnes, parmi lesquelles des ex-combattants démobilisés, de jeunes à risque et des femmes vulnérables, sont recrutées dans le cadre de la haute intensité de la main-d'œuvre de ces projets de 9 mois. Ce projet de route permettra aux troupes de FRDC d'effectuer des patrouilles de combat dans la zone. Les paysans agriculteurs et éleveurs de la région seront en mesure d'évacuer leur production vers les centres de consommation et augmenter ainsi leurs revenus. On écoute les coordonnateurs de la SOCICO, Société civile des compatriotes congolais Kelvin Bouigi.
Nous devons appuyer et sensibiliser tous les acteurs de la société civile à comprendre les bien fondés de ces projets et aussi les groupes armés qui continuent toujours à insécuriser les paisibles citoyens de temps en temps. Vraiment, nous allons continuer toujours à les sensibiliser, à déposer les armes parce que un milieu ne peut pas être développé aussi longtemps. Il y a toujours des coups de balles qui sont entendus par Sarla. Il faut qu'ils puissent déposer les armes et adhérer au programme PDDRCS. Toutes les personnes qui seront impliquées à ce projet, nous leur devons d'être sérieux parce que plusieurs projets, il y a toujours des questions de détournement. Cette fois-ci, nous voulons les interpeller avant l'État vraiment de regarder comment construire au lieu de faire les questions de détournement. Vraiment attaquer l'aide de la population, nous serons là vraiment pour les poursuivre, les dénoncer auprès des instances sécuritaires pour que ces dernières soient sanctionnées.
L'OIM prévoit d'exécuter un autre projet avec les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en faveur des ex-combattants issus des groupes armés étrangers. On écoute les directeurs des départements en charge des stabilisations, transitions et relèvements communautaires au sein de l'OIM RDC, Syriac Ntirandekura.
Pour ce qui concerne la problématique des combattants étrangers, il y a un autre projet, je sais, qui est en cours de préparation avec le fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix qui va effectivement s'occuper de cette problématique. Il est peut-être trop tôt pour annoncer cela. Les travaux qu'on fait, les Nations Unies viennent en appui aux structures nationales.
La fin de cette émission, la dernière de 2022. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Merci d'avoir cheminé avec nous durant toute cette année qui s'achève. Merci à Pierre Destinois qui a assuré la prise de son. Moi, c'est Babel Pongo Massimango. Cela a été un plaisir de vous présenter cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré et Missinga Kalala. Merci de continuer à faire confiance à Radio Kapi. Et quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, elle vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Également, une heureuse année 2023. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux le 15 janvier 2023. Portez-vous bien.